VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 5 avril 2017, en direct de Washington. Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila s'adresse aujourd'hui au Parlement, réuni en congrès.
En République centrafricaine, deux factions de l'ex-Seleka ont attaqué hier Gwandaï, dans le nord-ouest du pays.
Au Bénin, rejet par les députés du document portant sur la révision de la Constitution du 11 décembre 1990.
Nouveau tir de missiles balistiques de la Corée du Nord à 48 heures de la rencontre entre le président Trump et son homologue chinois Xi Jinping.
Réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui à New York après l'attaque meurtrière à l'arme chimique contre Khan Cheikhoun en Syrie.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant, le journal.
En RDC, le président Joseph Kabila doit s'adresser aujourd'hui aux deux chambres du Parlement réunies en congrès après avoir bouclé hier les deux jours de consultation qu'il avait initiés. Son objectif, obtenir l'application de l'accord politique du 31 décembre 2016 à la suite de l'échec de la mission des évêques catholiques. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition avec Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
En Centrafrique, des hommes armés ont attaqué hier la ville de Ngaoundaï, dans le nord-ouest du pays, à la frontière avec le Cameroun et le Tchad. L'attaque a fait des morts, des blessés et des centaines de déplacés vers les deux pays voisins, a appris l'AFP de sources militaires à Bangui. Cette attaque a été lancée par deux factions, ex-Seleka, le mouvement patriotique de Centrafrique, MPC, du général Al-Khatim, et le mouvement Révolution Justice, RJ, a précisé la même source qui a requis l'anonymat, sans pouvoir préciser le nombre exact de victimes.
Au Bénin, les députés ont rejeté le document envoyé au Parlement par le gouvernement et qui portait sur la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. C'était au cours d'une séance plénière qui s'est tenue hier à Porto Novo, au Palais des gouverneurs. Le point avec notre correspondante Ginette Fleur-Adandé.
C'est pas 60 voix pour, 22 contre et une abstention que les députés ont renvoyé le projet de révision de la Constitution vers son géniteur, le président Patrice Talon. Une séance plénière de tous les dangers, pourrait-on dire, plusieurs suspensions de séance, un débat houleux et l'ambiance est montée d'un cran lorsque la doyenne d'âge, l'honorable Rosine Vieira Soglo, a affirmé avoir reçu de l'argent pour voter en faveur de la recevabilité du projet. Elle appellera même ses collègues qui ont pris, comme elle, de l'argent à écouter la voix de leur conscience afin de prioriser l'intérêt supérieur de la nation. Les débats au Parlement ont été retransmis en direct sur plusieurs stations de radio du pays. La mobilisation sur l'esplanade du Parlement se faisait de plus en plus grande, pendant qu'au sein de l'Assemblée nationale, le débat prenait bien de tournure. Heureusement, pour couper court à tout et pour refroidir les esprits, le président Adrien Rumbidji a suspendu la séance. Les débats reprendront quelques minutes plus tard, mais cette fois-ci avec le vote qui verra ranger le projet au casier des oublis. Il fallait 63 oui pour donner toutes ses chances au projet, mais le gouvernement n'a pu récolter que 68. Dans ces conditions, le gouvernement peut revenir à la charge avec un document qui requiert le consensus de toutes les composantes de la société béninoise ou carrément ranger ce pan de ses promesses électorales. Le temps, depuis quelques semaines, semblait être suspendu à ce projet. À compter donc de ce mardi, les Béninois passeront à autre chose. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, les avocats de l'ex-première dame Simone Gbagbo s'en sont vivement pris hier à des organisations de défense des droits de l'homme. Ils leur reprochent d'avoir dénoncé il y a une semaine son acquittement dans une affaire de crime contre l'humanité commis durant la crise post-électorale de 2010-2011. Précision de Jean-Roger Bion.
Les avocats de Simone Gbagbo, Ange Rodrigue Dadje et Abiba Touré accusent Human Rights Watch et la FIDH d'ignorer ce principe élémentaire qui indique que nul ne peut être jugé deux fois pour les mêmes faits. Human Rights Watch a critiqué un procès entaché d'irrégularités et demande le transfèrement de l'ex-première dame à la CPI, dont la requête dans ce sens est restée sans suite devant les autorités ivoiriennes. Ce procès a été un véritable fiasco tant sur la forme que sur le fond, ont déploré dans un communiqué la FIDH, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme et le mouvement ivoirien des droits de l'homme. Madame Gbagbo, 67 ans, était jugée depuis le 31 mai 2016 pour son implication présumée dans des tirs d'obus sur le marché d'Abobo, un quartier d'Abidjan favorable à Alassane Ouattara, rival de son mari Laurent Gbagbo, à la présidentielle de novembre 2010 et pour sa participation présumée à une cellule qui organisait des attaques menées par des milices et des militaires proches du régime. Simone Gbagbo purge déjà une peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, prononcée en 2015.
Coup d'envoi ce mercredi au Nigeria d'une campagne de vaccination contre la méningite qui a déjà fait près de 300 morts dans le nord-ouest du pays et qui menace les pays voisins. Des détails avec Michel Joseph.
Selon les derniers chiffres publiés mardi par les autorités sanitaires, près de 3000 cas ont été identifiés, soit un millier de plus qu'au début de la semaine précédente. Le nombre de décès est passé de 269 à 336. Cette résurgence de la maladie fait redouter une répétition de l'épidémie de méningite de 2009 qui avait tué plus de 2000 personnes au Nigeria. L'équipe de réponse à cette urgence sanitaire lancera une robuste campagne de communication et de mobilisation sociale, a fait savoir le Centre de contrôle des maladies du Nigeria. Les efforts seront axés sur la prévention de la méningite en milieu urbain et rural, a précisé le centre. Les États de Zamfara, Katsina, Kebbi, Niger et Sokoto sont les plus affectés. L'offre de services de santé est très limitée dans les zones rurales du Nigeria, où la plupart des habitants vivent avec l'équivalent de moins de 2 dollars par jour, et ce, en dépit des énormes ressources pétrolières nationales.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont présenté hier un projet de résolution au Conseil de sécurité condamnant l'attaque chimique en Syrie, appelant à une enquête complète et rapide. Une réunion d'urgence est prévue aujourd'hui. Ici à Washington, la Maison-Blanche a dénoncé hier avec fermeté cette attaque menée dans le nord-ouest de la Syrie, durcissant soudainement le ton à l'encontre du président Bachar al-Assad. Washington tient le leader syrien responsable de cet acte odieux qui a fait plusieurs dizaines de morts. Précision de John Linden.
Cette condamnation marque un changement par rapport aux prises de position récentes des ténors de l'administration Trump, qui appelait à accepter la réalité politique en Syrie face à une guerre qui a déjà fait plus de 320 000 morts. L'attaque chimique perpétrée en Syrie contre des innocents, y compris des femmes et des enfants, est répréhensible, a déclaré le porte-parole de la Maison-Blanche, ne ménageant pas ses critiques à l'égard du dirigeant syrien. Il y a quelques jours, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson avait affirmé que le sort du président Assad devait être décidé par le peuple syrien, une approche mise en avant de longue date par Moscou, qui soutient le régime en place à Damas. Cette attaque aérienne sur Khan Cheikhoun a provoqué une vague d'indignation internationale. L'armée syrienne a démenti catégoriquement toute implication.
La Corée du Nord a procédé à un autre tir de missile balistique 48 heures seulement avant que le président Donald Trump ne rencontre son homologue chinois Xi Jinping pour discuter des ambitions nucléaires de Pyongyang. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a estimé dans un communiqué que les États-Unis avaient assez parlé de la Corée du Nord. Nous ne ferons pas d'autres commentaires, a-t-il ajouté.
Deux semaines après l'attaque terroriste de Londres, le pape reçoit ce mercredi au Vatican quatre imams britanniques. Précision de Lionel Gahima.
L'audience du souverain pontife et des quatre imams avait été programmée bien avant l'attaque du 22 mars à Londres, durant laquelle un homme avait tué trois piétons à l'aide de son véhicule avant de poignarder mortellement un policier londonien devant le Parlement. Pour l'imam Mohammad Shahid Raza, président du Forum islamique britannique, le soutien du pape et son message de solidarité après l'attaque de Londres ont renforcé la position de la communauté musulmane qui, à l'instar des autres communautés, condamne toute activité terroriste. La visite au Vatican vise à encourager les leaders religieux musulmans qui rejettent toute justification de la violence par la religion à expliquer. De son côté, le cardinal Vincent Nichols, l'archevêque catholique de Westminster, qui accompagne les quatre imam britannique au Saint-Siège. Le pape François poursuivra ses efforts dans ce sens plus tard ce mois lorsqu'il visitera l'université Al-Azhar du Caire au lieu de la pensée islamique sunnite.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco Jacques Aristide.
L'embellie se confirme pour le tourisme au Maroc avec une nette reprise depuis le début de l'année, notamment à Marrakech mais aussi à Agadir et Casablanca. En janvier et février, les arrivées ont augmenté de 10,5% par rapport à la même période il y a un an, avec une hausse de 14,4% des touristes étrangers et de 5,6% des Marocains résidant à l'étranger. L'Observatoire du tourisme marocain estime que les perspectives pour les mois à venir sont excellentes. Le tourisme est l'une des principales sources de devises du pays et son deuxième employeur. L'Angola souhaite reprendre les opérations en dollars d'ici début 2018. Le patron de la Banque centrale croit que le pays va pouvoir bientôt se conformer aux normes et bonnes pratiques internationales. Les opérations en dollars ont cessé l'an dernier en raison du retrait des banques internationales qui injectent le billet vert aux banques partenaires en Angola, dû notamment au risque de criminalité financière. L'inflation continue de grimper en Éthiopie, le taux atteignant 8,5% en mars par rapport à 7% en février. Le bureau des statistiques du pays précise que les prix des aliments ont bondi de 9,6% le mois dernier, comparativement à 7,8% le mois précédent. Les prix non alimentaires ont, eux, augmenté de 6,2% à 7,3%.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Au Cameroun, Hugo Brousse présente ses excuses.
Oui, le sélectionneur des Lions indomptables a dû s'excuser après ses propos tenus en marge de la défaite contre la Guinée 2-1. C'était à Bruxelles. Vous vous souvenez, les Camerounais avaient été privés de repas à l'hôtel faute de paiement. On fait le point tout de suite avec le correspondant de VOA Afrique sur place à Yaoundé, Emmanuel Jules Ntap.
C'est un individu clairement identifié qui a occasionné l'incident de Bruxelles, a déclaré à la presse le président de la Fédération camerounaise de football, Tombi Aroko, à l'issue de la réunion organisée au ministère des Sports.
C'était un simple problème de personne, mais qui a contribué à ternir l'image de notre pays. Comme on dit souvent en football, petite erreur, grosse conséquence.
Cet individu dont l'identité n'a pas été révélée à la presse pourrait cependant faire l'objet d'éventuelles sanctions, ajoute le président de la Fédération camerounaise de football.
Nous avons pris acte de ce qui s'est passé sur la base des déclarations des uns et des autres. Toute décision qui sera prise, je pense que la presse sera surabondamment informée.
Hugo Brousse, l'entraîneur des Lions indomptables, dont l'audition était très attendue, a présenté ses excuses au Cameroun.
J'ai peut-être exagéré et j'ai peut-être humilié le peuple camerounais. Mes excuses pour ça. Je pense que tout a été dit et que dès aujourd'hui, on peut de nouveau se concentrer sur le plus important, c'est le sportif.
Plus de 6 heures de conclave à huis clos, la réunion dite interne s'est transformée en un long interrogatoire. La mine fatiguée, le Belge face aux journalistes a levé l'équivoque sur son départ du Cameroun.
Je ne veux pas quitter le Cameroun, donc ça soit clair pour tout le monde. Donc dans ce sens-là, je pense que tout est clair. Oublie surtout ce qu'on écrit et ce qu'on dit, que je postule dans d'autres fédérations ou dans d'autres clubs, c'est qu'un grand mensonge, ce sont les gens qui me contactent, c'est pas moi qui postule.
La Fédération camerounaise de football a aussi donné sa version des faits devant les hauts gradés parmi lesquels un général en charge de la gendarmerie. Il y avait aussi la présence de 2 commissaires de police, des services de la police judiciaire et des renseignements généraux du Cameroun. Les têtes vont tomber, nous glisse l'une des personnes ayant assisté à la réunion. Car, dit-elle, c'est l'honneur du Cameroun qui a pris un coup dans cette affaire des joueurs privés du déjeuner dans un hôtel en Belgique pour facture impayée. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Le Ghana a un nouveau sélectionneur.
Oui, le technicien ghanéen James Kwesi Appiah a été nommé pour 2 ans sélectionneur des Black Stars. L'équipe nationale de football du Ghana, âgée de 56 ans, Appiah avait déjà dirigé la sélection nationale de 2012 à 2014. Il prendra ses fonctions à partir du 1er mai. On se souvient qu'il avait été remplacé par l'Israélien Avram Grant après la contre-performance des Black Stars au Mondial 2014, où ils avaient été éliminé dès le premier tour. Oui, mais voilà, Grant est parti il y a 2 mois après la CAN 2017 au Gabon où le Ghana avait terminé à la 4e place. Allez Idrissa, avec vous quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Brooklyn Nets et Philadelphia 141-118, Charlotte et Washington 111-118, Orlando et Cleveland 102-122, Toronto-Indiana 90-108, Denver et New Orleans-Pelicans 134-131, Milwaukee et Oklahoma City 79-110 et Chicago et New York Knicks 91-100.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila s'exprime ce mercredi devant le Parlement réuni en congrès. Il a bouclé mardi les deux jours de consultation qu'il avait initiés pour obtenir l'application de l'accord politique du 31 décembre 2016 après l'échec de la mission des évêques catholiques. Pression et appel à l'application de l'accord se multiplient et des décisions sont attendues de la part de Joseph Kabila, nous dit dans ce reportage Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Deux jours de consultation, six plateformes politiques et de la société civile en plus d'une personnalité de l'opposition reçue, une absence de taille, celle du rassemblement de Félix Tshisekedi. Joseph Kabila a recueilli les propositions des délégués aux discussions de la Conférence épiscopale nationale du Congo pour sortir de l'impasse politique actuelle consécutive à la non-application de l'accord du 31 décembre 2016. Vital Kamerhe, qui a conduit l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre, rappelle la nécessité pour toutes les composantes d'œuvrer pour l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre.
Pour nous, le pays doit avancer. Il faut appliquer l'accord du 31 décembre 2016 et que le Premier ministre sera du rassemblement. Deux, nous avons été aux manœuvres quand le pays était en difficulté, était exposé. Nous étions à la cité de l'Union africaine. Et c'est cet accord du 18 octobre 2016 qui a ouvert la voie à l'accord du 31 décembre 2016. Et nous avons dit que nous allons continuer à œuvrer pour la paix. Mais pour notre composante, et nous disons le plus important, c'est que tout ce que nous allons faire débouche sur les élections.
La désignation du Premier ministre ainsi que la présidence du Conseil national de suivi de l'accord constituent les deux points d'achoppement. Pour Fidel Babala, le secrétaire général du mouvement de libération du Congo, c'est le front pour le respect de la constitution que le MLC pilote qui mérite le mieux après la mort de Tien Tshisekedi, la présidence du CENSA.
Nous avons réitéré notre volonté de ne pas participer au gouvernement et nous avons dit au chef de l'État que c'est une question qui devrait être réglée entre la majorité et les rassemblements. Ça ne nous concerne pas. En ce qui concerne la présidence du CENSA, nous avons dit au chef de l'État, ce que nous avons dit aux évêques, que le front pour le respect de la Constitution a reposé les problèmes de la disponibilité de cette responsabilité au niveau du bureau du CENSA.
Valentin Moubaké, ancien conseiller politique d'Étienne Tshisekedi, seul à être reçu comme personnalité politique, a lui affiché son désaccord avec la direction du rassemblement auquel il appartient, qui a boycotté ses consultations, les qualifiant d'inappropriées.
J'ai été reçu suite à l'invitation qui m'a été lancée par le président en tant que personnalité. Je ne suis pas ici représenter un regroupement politique quelconque. Nous avons échangé sur la situation politique, le travail que les évêques lui avaient remis et sur l'accord de la Saint-Sylvestre et comment pouvoir aller de l'avant afin de mettre en application cet accord de manière intégrale et le plus rapidement possible. Je vous apprends que j'ai appelé M. Félix Tshilombo pour lui poser la question de savoir pourquoi l'invitation du chef de l'État n'avait pas reçu satisfaction. Je suis dans un parti politique, mais je ne suis pas ici en tant que représentant d'une plateforme politique. Et vous savez tous, pour ceux qui étaient avec nous à la CINCO, la formulation de consultation avait été acceptée. Eh bien voilà, nous y sommes.
La population, elle, se dit fatiguée de ces blocages à répétition et n'attend qu'une chose, la mise en train de l'accord qui passe notamment par la nomination rapide d'un Premier ministre qui sera issu du rassemblement et la désignation du président du Conseil national de suivi de l'accord.
Son discours doit apaiser les parties prenantes de ces dialogues. Sinon, on risque de passer un 2017 qui n'a pas de sens. Il y a toujours des problèmes à tout moment.
Moi, en tant que peuple congolais, j'attaque une seule chose. C'est la nomination de M. Félix Tshisekedi comme Premier ministre. C'est tout. C'est ça que nous attendons pour essayer un peu d'apaiser le climat dans notre pays.
Nous, étant que peuple congolais, le président de la République, c'est lui qui est à la base de toutes les souffrances
ce que le peuple congolais est en train de subir. Ce que nous attendons de lui, qu'il fasse de toutes les façons que l'accord du 31 décembre soit en action.
On pensait peut-être que les gens du rassemblement et de la majorité présidentielle devraient penser à la population congolaise, mais on a constaté qu'ils couraient derrière leurs intérêts privés.
Kinshasa, Thierry Kamoudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a entamé lundi une visite de travail de 72 heures en Afrique du Sud à l'invitation de son homologue Jacob Zuma. Au cours de leurs entretiens, les deux hommes ont évoqué le renforcement de la coopération bilatérale entre Bangui et Pretoria. Le président centrafricain a par ailleurs rencontré les industriels sud-africains en vue de relancer les secteurs de l'agriculture, des mines et des infrastructures routières en Centrafrique. Au micro de Félix Yepasi-Zembrou, écoutons le président Faustin Archange Touadéra.
C'est depuis 2006 qu'il y a eu des accords de coopération entre un autre pays, c'est-à-dire la République centrafricaine et l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, je suis invité dans le cadre d'une visite de travail par le président Jacob Zuma pour voir dans quelle mesure nous pouvons intensifier ou améliorer, renforcer cette coopération avec l'Afrique du Sud.
Monsieur le Président, une rencontre avec les industriels sud-africains prévue au programme de votre visite. Quelles en seront les retombées pour la RCA?
Aujourd'hui, une des priorités de notre action au niveau de la RCA africaine, c'est le secteur privé. Nous voulons vraiment relancer le secteur privé parce que nous pensons que c'est le secteur privé qui est porteur, disons, d'emplois et de richesses, de création de richesses. Et comme vous savez, les entrepreneurs ou les partenaires sud-africains sont très efficaces et coûtent d'efficacité dans leur domaine d'action, notamment au niveau de l'agriculture, par exemple, au niveau des mines. Et donc, ce sont des partenaires importants que nous souhaitons vraiment rencontrer pour les intéresser à venir en République centrafricaine.
Dernière question, Monsieur le Président. Le volet sécurité en RCA sera-t-il au menu de vos discussions avec les autorités sud-africaines?
Bien entendu, comme vous savez, l'une des priorités de nos actions, c'est le retour de la paix, de la sécurité et aussi la restructuration de nos forces de défense. Bien entendu, comme vous le savez, nous cherchons des partenaires, surtout des pays africains, pour nous aider et aussi d'autres pays amis pour nous aider donc à développer, disons, le programme, le processus de DDR et aussi à participer à la restructuration de nos forces de défense et de sécurité.
Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au Burkina Faso, l'opposition rompt son silence. Elle a prévu une manifestation le 29 avril pour dénoncer ce qu'elle a appelé la dégradation de la situation nationale suite à l'appel de l'Union pour le progrès et le changement, l'UPC, de Zéphirin Diabré. Selon M. Traoré Djibril, membre de la commission communication du MPP, parti au pouvoir, l'opposition ne peut pas demander de changement sans discipline. Arzouma Compaoré l'a joint par téléphone à Ouagadougou.
Nous reconnaissons les droits à l'opposition, nous reconnaissons les droits à la manifestation, mais nous estimons que nous sommes dans un contexte sécuritaire, délicat. Donc ce n'est ni dans la surenchère, ni dans l'identification, ni par la rue que l'opposition va contribuer à renforcer la cohésion sociale contre l'agenda djihadiste. Nous sommes d'accord, et c'est pour cela d'ailleurs que nous n'interdirons à rien la manifestation de l'opposition. Mais nous souhaitons que cette manifestation-là se fasse de façon apaisée et démocratique, pour que nous fassions front commun contre l'agression de notre pays.
L'opposition se plaint du fait qu'il n'y a pas véritablement de changement. Les mêmes personnes qui sont au pouvoir étaient toujours comptables sous l'ère Compaoré. Ce changement-là, il tarde à venir.
Le départ de Blaise Compaoré et le maintien au pouvoir aujourd'hui de l'élite nationale, c'est deux choses différentes. On ne peut pas demander le changement sans discipline. Convenez bien avec moi, ce n'est pas en jetant le peuple dans la rue qu'il y a le programme présidentiel. Le programme présidentiel sanctionné par une feuille de route qui est le programme national du développement économique et social. Ce programme actuellement a un financement potentiel de 15 000 milliards de francs CFA. C'est insolite, bien sûr, d'habitude. Mais aujourd'hui, l'opposition fait tout pour discréditer les MPP dans l'opinion internationale. Tous sont à la limite de la retraite. Donc, ils savent que si les MPP ont les 5 ans, eux-mêmes, ils ne pourront pas réellement encore jouir du pouvoir. C'est la politique politicienne.
Aujourd'hui, quelles sont les relations que l'opposition entretient avec le pouvoir en place?
Nous avons un cadre constitutionnel. Tantôt l'opposition nous rejoint au Parlement pour avoir un débat démocratique, tantôt l'opposition s'exile dans la rue. Donc c'est à l'opposition de définir plutôt ses relations avec le MPP. Pour nous, l'opposition, ce sont des frères. S'ils sont prêts à nous rejoindre, nous travaillerons dès aujourd'hui avec eux. Mais nous n'allons jamais complaire avec l'opposition en interpellant le peuple dans la rue. Si l'opposition se veut républicaine, nous sommes prêts à amorcer un dialogue républicain dans le cadre, n'est-ce pas, des institutions démocratiques en place.
Traoré Djibril, membre de la commission communication du MPP, le parti au pouvoir au Burkina Faso.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
En réaction à la grève illimitée déclenchée depuis le 9 mars 2017 par le personnel sanitaire et le syndicat national de l'enseignement supérieur du Mali, des jeunes activistes ont organisé hier une journée de protestation dénommée Tarata Houlen ou Mardi Rouge. À cette occasion, tout le monde a été appelé à revêtir un habit rouge pour dire non à la situation actuelle. Modibo Dembélé a joint Ibrahima Kébé, commissaire de l'association Faso Kanou, un organisateur de la manifestation.
Tarata Houlen, je veux dire tout simplement Mardi Rouge en français.
Pourquoi avoir organisé une journée Mardi Rouge?
La simple raison que, vu la situation actuelle de notre pays, qui est vraiment désastreuse, nous avons jugé nécessaire d'organiser cette activité de Tarata Houlen pour exiger le respect strict sans délai du droit à la santé et à l'éducation en République du Mali. Et ces droits-là sont vraiment bafoués aujourd'hui, dû à une politique criminelle, ne dit pas son nom.
Ne pensez-vous pas que les grévistes de la santé et de l'enseignement ont des griefs légitimes pour avoir organisé quand même la grève qui tend vers la 25e journée, surtout pour les professionnels de la santé?
Absolument. La grève en tant que telle est un droit. Et chaque citoyen a le plein droit de défendre ses droits, surtout avec les services de santé. Les revendications avaient été approuvées par le gouvernement, et dont le gouvernement même avait donné un délai de 45 jours. Et jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas bien honoré sa parole. Donc, ils sont dans leur droit de pouvoir revendiquer l'amélioration de leurs conditions. Et aujourd'hui, c'est 25-26e journée que les services de santé sont en grève. Et il y a des centaines de morts déjà. Et ces morts-là concernent qui? Concerne les ouvriers, les paysans, etc. Et quand aujourd'hui le président de la République tombe malade, il prend son avion pour aller à l'extérieur du pays pour se faire soigner, y compris son entourage, et c'est nous qui payons la facture. Donc il est vraiment temps que nous-mêmes nous revendiquons nos droits. C'est pourquoi nous avons adopté cette forme de lutte, celle qui est vraiment pacifique, afin de pouvoir vraiment revendiquer le respect strict et sans délai de nos droits qui sont vraiment inscrits dans la Constitution à son article 17.
Quel élément de réponse le gouvernement a donné à votre initiative?
Le gouvernement, à travers sa police, a essayé de saboter un peu notre activité en détachant toutes nos banderoles qui avaient été affichées. Et ils ont pris deux de nos petits qui étaient là hier à Bamako en train d'afficher nos slogans à travers Bamako. Ils avaient été arrêtés au deuxième arrondissement. Donc ils continuent les intimidations. Mais nous n'allons pas reculer parce que nous défendons notre droit. Et c'est la Constitution qui nous donne cette autorisation-là. Et nous n'allons pas rester les bras croisés et puis voir cette situation qui est vraiment chaotique en disant qu'on s'en remet à Allah. Voilà, il faut arrêter la situation du pays et ceci et cela. Nous n'allons pas perdre notre temps en lamentation sur ces dimensions-là. Et nous allons faire ce que nous avons à faire. Parce que cette lutte-là, c'est pour le bonheur du maximum de Maliens dans un minimum de temps.
C'était Ibrahima Kébé, commissaire à l'association Faso Kanou, joint à Bamako.
Washington Forum ce jeudi, on décrypte le débat autour du franc CFA. La monnaie commune à 15 pays d'Afrique francophone, de l'Ouest et du Centre, héritée de la colonisation française, divise. Autrefois arrimé au franc français, il dispose aujourd'hui d'une parité fixe avec l'euro. Ce lien fort est considéré par beaucoup comme un gage de stabilité. Alors pourquoi tant de polémiques? Êtes-vous pour ou contre son abandon? Si oui, quelles sont les perspectives et alternatives? À qui profite cette monnaie? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 20h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.